canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association INIS, Italie Nord-Isère.
Par Jean Guichard et Alain Pongan. Bonsoir Laurent, bonsoir Angelo, parce que ce n'est plus Alain qui fait l'émission avec moi, c'est Angelo.
Bonsoir.
Et on continue aujourd'hui sur, on va finir entre aujourd'hui et la prochaine fois, notre série d'émissions sur les cantautori en parlant de la musique sarde. On va aller dans la dernière île de la Méditerranée, la dernière île italienne, c'est la Sardaigne. Et c'est une île qui a une musique assez exceptionnelle, parce que la civilisation sarde a été très particulière, parce que c'est une île qui a été isolée, mais qui a connu beaucoup d'invasions depuis les Vikings dans un temps très ancien, jusqu'aux Romains qui ne sont jamais arrivés à conquérir le centre de la Sardaigne, parce que justement il y avait une résistance de la population. Et puis ensuite c'est les Piémontais qui l'occupent à partir du début du XVIIIe siècle, qui l'occupent mais qui ne s'en occupent pas. Et donc la culture sarde est restée toujours très 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 vivante, et en particulier la musique. Les musicologues, les grands musicologues qui sont venus étudier la musique populaire après la Seconde Guerre mondiale, dont Alan Lomax qui vient des États-Unis, qui vient aider Carpitella et d'autres à enregistrer des musiques populaires. Lomax considérait que la chanson sarde était probablement la dernière trace la plus sensible de l'ancienne musique méditerranéenne jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, et qu'en ce sens, elle a été classée patrimoine universel et immatériel de l'humanité. Ce n'est pas par hasard, par l'UNESCO. Et on va donc écouter d'abord quelques-unes de ses chansons, et puis il faut parler aussi, on ne peut pas s'en passer, des instruments. La Sardaigne a gardé un des plus anciens instruments de la chanson méditerranéenne, de la musique méditerranéenne, c'est la flûte triple qu'on voit sur les fresques étrusques anciennes et qu'on trouve encore dans des pays comme la Yougoslavie ou comme la Grèce. C'est ce qu'on appelle la launeddas. C'est une flûte triple qui est taillé dans des roseaux. Alors il y a une pièce longue qui sert de caisse de résonance, et puis deux flûtes plus petites. Et on va en écouter un morceau tout de suite. C'est un instrument étonnant qui servait aux bergers pour communiquer d'une colline à une autre. Sans problème, parce que on a l'impression, quand on a une launeddas devant soi, on a l'impression d'avoir quelquefois tout un orchestre. Alors on va écouter déjà un premier morceau, c'est une danse du Logudoro, des régions de la Sardaigne, jouée par Efisio Melis, et il y a un seul instrument, une seule launeddas. On l'écoute.
Thank you.
Voilà, c'est un exemple de l'Aonedas. Il y a encore aujourd'hui un certain nombre de joueurs de l'Aonedas qui s'entraînent en Sardaigne, qui fabriquent des instruments, fabriquent toujours ça à la main, dans des roseaux qu'on évide et dont on perce les trous, etc. Et puis alors, la chanson sarde traditionnelle, qui est toujours la chanson vivante en Sardaigne. Quand je dis traditionnelle, il ne faut pas s'imaginer que c'est ancien et que c'est mort. C'est à la fois très ancien et très vivant, en particulier dans le centre de la Sardaigne, le centre nord et le centre est, cette région que les Romains avaient appelée la Barbade, qu'on appelle la Barbagia encore aujourd'hui, c'est-à-dire la région des barbares, parce que les Romains, la nuit, ils s'enfermaient dans leur caserne, mais ils n'osaient pas sortir, ils lâchaient les chiens, ils avaient des chiens méchants, les légions romaines, mais eux, ils ne sortaient pas parce qu'ils avaient peur de ces populations. Et ils ont appelé cette région la barbarie, la région des barbares. Alors, il y a un chant particulier dans cette région, c'est le chant qu'on appelle a tenore. C'est un chant polyphonique particulier qui n'a de proche que le chant corse, si vous voulez. On pourrait les comparer si on avait le temps. Ce sont des petits groupes de chanteurs, un petit ensemble choral de quatre chanteurs qu'on appelle sous tenore, et ces quatre chanteurs chantent des choses très diverses, ce qu'on appelle le boghe notte ou le saseria, des chants lents sur des thèmes sérieux, ce qu'on appelle le muto, la poésie chantée sur des thèmes généralement amoureux, le gozo, qui sont des hymnes religieux ou politiques, l'anninia, la berceuse, on en écoutera une tout à l'heure. Et en même temps, il faut penser que ces chants étaient faits pour être dansés, parce que c'est ce qu'on se chantait dans les groupes, dans les petites communautés sardes, dans les villages. C'est ce qu'on se chante toujours. Et encore aujourd'hui, quand les groupes sardes chantent le chant a tenore, ils remettent leurs vêtements traditionnels, très caractéristiques, des bergers sardes depuis toujours. Alors, il faut préciser, parce que ce qu'on va écouter sera plus intelligible, il y a quatre voix. Il y a ce qu'on appelle saboghe, en italien c'est la voce, la voix, qui a la fonction de soliste, qui chante le texte, qui conduit le chant, qui dirige les modulations diatoniques, les scalates, et puis qui peut pratiquer des ornementations au-dessus du chœur. Et puis, il y a trois autres voix, c'est la mezzaboghe, la mezzavoce, la mi-voix.
Mi-voix.
C'est la voix la plus aiguë et relativement libre par rapport aux deux autres voix du chœur. Elle multiplie souvent les mélismes, les ornements. Et puis, ce qui est caractéristique, c'est qu'elle imite le son du vent ou le chant des brebis. Il faut penser que c'est une chanson de milieu pastoral où on vit au milieu essentiellement des brebis. Il faut voir le paysage sarde de cette région qui est montagneuse et écouter quatre chanteurs dans la nature qui chantent un chant a tenore, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avec une main sur la tempe pour entendre leur voix, parce que c'est quatre voix différentes. Et puis on a la contra, la voix centrale du chœur, et qui a une fonction importante parce que c'est autour d'elle que les deux autres voix du chœur s'accordent. Et bien souvent, elle imite aussi le cri de la brebis. Et puis, il y a la quatrième voix, c'est le basso, qui fonctionne en relation avec le contra pour produire une quinte juste. On est à la quinte. Et le basso imite souvent le cri de la vache. Donc vous voyez, on a un chœur de quatre voix. On va en écouter tout de suite un exemple tiré d'un des groupes de tenores, les tenores de Bitti, qui est un village du centre de la Sardaigne. Dans ce ce passage qui s'appelle « Sa ballerina ». Et le poète chante les meilleurs danseurs du village, les danseurs qui dansent en particulier pour le carnaval. Alors remarquez bien comment la bogue va chanter et quel est l'accompagnement des trois autres voix.
La ballerina gentile, ballerina in cara se care, ballerina.
Voilà un premier exemple de chant a tenore. Vous avez bien distingué hein, la bogue et puis les trois voix d'accompagnement qui font barambum, barambambam, des sons divers qui reprennent le chant des animaux. Si ça vous intéresse d'en écouter d'autres, regardez le site internet www.tenoresdibitti.com, en un seul mot, tenoresdibitti.com, et vous trouverez énormément d'informations intéressantes sur le milieu pastoral de la Sardaigne, sur l'histoire de ces chants. C'est un des meilleurs sites que je connaisse sur tout ça. On va en écouter un second, c'est toujours des Tenores di Bitti. C'est une chanson d'amour, T'amo, je t'aime pour ta beauté, parce que je veux t'amener devant les autels, etc.
T'amo prochido t'ha sin aschida, ma non penso de ritorderti amare, ma non penso de ritorderti amare. Giura tutta per te, ma non penso te risalirà, tu e sola ti amo, tu e sola ti periodo brucare, da maratta per me di olira, case sono tua e te caramira, tu e voglio, pro te voglio tu se ne vada mala, prite non è tua per istare, ma un vincolto per la tua nostra la, Giurato, ma non ti amo, saltare in te, lo so.
Voilà, c'était un second chant à ténor et puis on va en écouter un troisième qui est d'un groupe qu'on connaît bien puisqu'on l'avait fait venir à Bourgoin il y a quelques années, qui a eu un gros succès. C'est les chanteurs d'Irgoli, qui est un petit village de la province de Nuoro, au nord-centre-est de la Sardaigne. Et c'est un boghenote, qui est un chant politique et qui est un chant anti-religieux. Le chant à ténor est un chant exceptionnel parce que celui-ci est uniquement profane. Ce n'est pas du tout un chant religieux. On écoutera tout à l'heure des chants religieux sardes, mais ce n'est pas du tout un chant religieux. Et donc, c'est vraiment un style particulier et important parce qu'aujourd'hui, où il s'est développé, il continue à être chanté à quatre voix, comme ça, mais il a aussi été... Les voix ont été remplacées quelquefois par l'accordéon diatonique, par exemple. Et donc, mais c'est toujours sur le même rythme. Alors, la Boghenote de Irgoli chante « La religion est un filon, una miniera. Pour les papes, les monseigneurs et les vicaires, les saints sont tous des dirigeants dans l'exercice d'un art ou d'un métier. Ô peuple ignorant, considère quels fruits te donnent les sanctuaires. Tu ne vois pas combien les saints, les madones et les christs dérobent le fruit de ceux qui travaillent. » On va l'écouter.
Fare lezione è una miniera, cum papar mu signore se vicario. Santo sono tutto impresario, chi ha tu un'arte e una. Santor Madonna se Cristo son sosi sfruttatore e so
Voilà, un dernier exemple de canto a tenore. Et moi, j'ai des souvenirs de soirées passées dans une communauté d'Irgoli, entre autres, et avec des groupes de chanteurs comme ça, en buvant de l'essence de myrtille. Et bon, c'est vrai qu'ils boivent beaucoup en même temps, mais c'est des soirées extraordinaires, quoi. On a des souvenirs de ces soirées en Sardaigne avec des joueurs de la Unedas ou des groupes a tenore qui sont exceptionnels et qui ont quelque chose de très pur, quoi. Ça a été peu contaminé par ce qu'on appelle la modernité. Et ça, c'est intéressant aussi, quoi.
Il y a une partie de la Sardaigne qui est encore comme ça.
Il y a en particulier le centre.
Oui, il n'est pas envahi.
Non.
Et reste tel qu'il est.
Oui, oui, oui. Et les touristes vont sur les plages.
Voilà.
Ils vont guère dans la Barbagia, dans des villages comme Fonni, comme même à Nuoro, où il y a beaucoup de choses.
Orgosolo.
J'ai souvenir de passages à Orgosolo qui sont des moments extraordinaires, quoi. Et c'est les régions aussi qui étaient réputées régions de banditisme,
oui,
où on pratiquait entre autres les vols de troupeaux. Et alors, quand on volait un troupeau, pour qu'il ne soit pas reconnaissable, parce que les moutons, c'est difficile de les identifier, on leur coupait, on leur faisait une nouvelle marque à l'oreille. Alors on coupait un morceau de l'oreille pour éliminer...
Pour différencier.
Et alors tout ça a disparu lorsqu'on a pu poursuivre les 10 brigands avec des hélicoptères ou le téléphone portable aussi a changé beaucoup de choses. Mais ils se sont très bien adaptés.
Oui, oui, oui.
Et le brigandage a duré longtemps. Ouais. Moi, je suis allé en Sardaigne dans les années 60 et il y avait encore des enlèvements par des brigands célèbres qui étaient en même temps des héros populaires. À Orgosolo, on nous avait fait visiter le petit bar dans l'arrière-salle duquel un des grands bandits de l'époque avait tué un membre d'une autre famille parce qu'ils avaient une rivalité ancestrale entre familles.
Et
c'était un héros, il avait fait son devoir en tuant quelqu'un de l'autre famille, c'était pas un crime. Alors, on va écouter maintenant quelques cantautori sardes. Et il y en a une première, parce que y a dans les groupes a tenore, ce sont des groupes d'hommes. Mais dans les chorales communautaires sardes, il y a aussi beaucoup de femmes qui participent. Et parmi les chanteuses, il y a beaucoup de femmes. Une des plus importantes qui est devenue un peu un symbole de la Sardaigne.
Un symbole de la musique, un symbole de la disons, de la chanson sarde.
De la chanson sarde. Et puis, c'était une icône en Sardaigne, ouais. Maria Carta. Elle était née en 1934 à Sirigo.
Dans le Logo d'Oro, toujours.
Hein?
Dans le Logo d'Oro, toujours.
Dans le Logo d'Oro, toujours. Et elle a perdu son père à l'âge de 8 ans. Donc, elle a dû participer aux travaux de la campagne. C'était une fille de paysan. Et je signale, tous ces chanteurs des groupes a tenore sont des paysans, sont des bergers.
Des bergers.
Des bergers qui continuent leur travail de berger. C'est pas, ou très rarement, les tenores di Bitti sont connus dans le monde entier maintenant, ceux de Irgoli aussi, mais très souvent ils continuent à avoir leur activité de paysans, d'éleveurs, de bergers.
Oui, le 80% des Sardes, je peux dire, ils sont bergers.
Oui, bien sûr.
Parce qu'ils sont...
Ça reste une activité importante, oui. qui rapporte de moins en moins, parce que la laine n'est pas très abondante. Quand on voit des bergers, des moutons sardes, ils sont maigres, la laine est peu abondante, ils produisent moins de lait, etc. Et donc, Maria Carta doit travailler très jeune, elle a 8 ans, et on s'aperçoit très vite qu'elle a une belle voix. Alors, en travaillant, elle chante. Elle chante avec les femmes qui ramassent les olives, avec les femmes qui sarclent les champs. Le blé. Et avec les femmes qui lavent qui font leur lessive dans l'étang ou dans la fontaine ou dans le fleuve. Elle chante pour les bergers, pour les paysans, etc. Et elle connaît très vite les chants de Noël, les messes. Elle chante pour l'église du village. Et puis sa mère se remarie et elle déménage dans une autre maison. Et elle reste à Siligo, quelqu'un d'extrêmement aimé. Tout le monde connaît, elle est morte en 1994 d'un cancer, et tout le monde connaît à Siligo encore aujourd'hui Maria Carta.
Mais il y a une statue qui a été faite en honneur de Maria Carta, et ils l'ont fait au même emplacement où il avait la maison de Maria Carta.
Absolument.
Mais tout le monde, il l'adore. Il l'adore tout heure, même maintenant, parce qu'elle est devenue, disons, très, très fameux. Elle est partie au Chili. Elle a chanté en Amérique, toute l'Europe, de partout. Elle était toujours invitée. Et après, c'est qu'il avait de bon, qu'il retournait toujours chez elle.
Oui.
Pour aller interroger les vieux et essayer de soutirer encore pour apprendre.
Absolument.
Et pour faire ressortir ce qu'est la vieille chanson. Mais elle aussi, elle aimait la chanson parce que même dans la famille, elle avait une femme que de la famille de la mère, qu'elle était aussi une chanteuse. Et c'était une des premières femmes qui chantait en public. Et c'est comme ça que, petit à petit, en chantant en église, elle a appris la messe en latin.
Bien sûr.
Elle a chanté en latin.
Bien sûr.
Et tous les fêtes religieuses et toutes les chansons religieuses, c'était après commencer à chanter au public.
Bien sûr.
Dans les places.
Et puis elle est montée sur scène assez jeune parce qu'en 1957, comme elle était très belle, elle a été élue Miss Sardaigne.
Miss Sardaigne.
Et donc, ça l'a obligée à monter sur scène. Et puis, comme tu dis, elle a parcouru le monde entier. Elle est venue en France aussi. Et elle a publié un certain nombre de disques. Alors, elle chante quoi? Elle chante la vie des Sardes. Elle chante l'amour, la mort, la joie, la douleur, à travers des mélodies caractéristiques. On va en écouter une tout de suite. C'est un gozos. Et le gozos, je vous disais, c'est un chant ou politique ou religieux. Ici, c'est un chant politique qui est écrit sur un texte du XVIIIe siècle, d'un magistrat du XVIIIe siècle. La fin du XVIIIe, il y avait un courant révolutionnaire très important. Et c'est un gozos sur les patriotes sardes qui s'adressent à leur feudataire, à leur seigneur. « Essayez de modérer votre tyrannie, baron. Je jure sur ma vie que vous remettrez les pieds sur terre, transférés au Piémont. » Parce qu'à ce moment-là, c'est le Piémont qui possède la Sardaigne depuis le début du XVIIIe.
Il y avait le royaume de Piémont-Sardaigne.
Et c'est à la Sardaigne que les ducs de Piémont devaient leur titre de roi, d'ailleurs, parce que la Sardaigne était un royaume. Alors, il y aurait toute une histoire de la Sardaigne à raconter, très, très importante, quoi, avec des traditions, avec des femmes qui ont été les giudices et les juges de la Sardaigne, très, très importante. Je jure sur ma vie donc que vous remettrez les pieds sur terre, transférés au Piémont, notre argent et notre or de leur gouvernement. Maxime fondamentale aux vieux des villages, travaillez, travaillez pour soutenir en ville ces chevaux d'étable. À vous, ils laissent la paille et prennent pour eux le grain, et du soir au matin ne pensent qu'à engraisser de cette terre. Ils ont, eux, tiré des millions. Ils venaient sans caleçon et partaient galonnés. Maudit soit le lieu qui crée une race semblable. Cette race de bâtards a ruiné l'île. Les privilèges sardes, ils les ont emportés. Ils ont volé des archives, des documents importants. Et comme papier inutile, ils les ont fait brûler. Alors c'est seulement quelques strophes de ce poème du magistrat d'un magistrat sarde de la fin du XVIIIe qui a 47 strophes. On va en écouter ces trois strophes que chante Maria Carta.
Sono sanaleato da sos. scrittura pezza, la sana fatta bruiare.
Voilà une première chanson reprise par Maria Carta. Et c'était une personnalité aussi qui a été très attachée à Rome, hein, Angelo.
Oui, parce que un an après son élection à Miss Sardaigne,
oui.
Siligoi commence à devenir trop petit pour elle.
Oui.
Donc elle est partie à Rome. À Rome, un an après, il s'est marié avec un s'appelait Salvatore Laurani. Mmh. C'était un metteur en scène, mmh. un bon metteur en scène. Et là, elle a commencé à connaître un peu de monde. On voit Maria Carta qu'il a la part de la mère aux parents sous le film Le Parrain 2.
Mmh. Et elle a joué dans beaucoup de films.
Elle a joué là. Elle a joué avec le rôle de Martha sous le film de Zeffirelli.
Oui, bien sûr.
J'ai su de Nazareth.
Oui,
voilà.
Oui.
Et bon, il a fait encore pas mal de choses. Il a travaillé avec Pasolini,
oui.
Zeffirelli,
Visconti
aussi. Et il a fait jusqu'à un certain moment. Après, elle a dit, c'est tout. Quand il a rencontré aussi le grand Ennio Morricone, qu'il a commencé à la faire chanter.
Oui, ouais, dans ses films.
Dans ses films.
Ouais, ouais.
Mais après, à un moment donné, et s'est arrêté un moment et dit, non, c'est pas ça ma vie,
mmh.
c'est la chanson.
Absolument.
Elle est revenue sous la chanson.
Uh-huh. Elle a enregistré d'autres disques qui sont toujours très, très vendus aujourd'hui, quoi.
Oui, oui, oui.
Très écoutée.
Mais très étonnant, cette femme. Je peux citer peut-être un mot qu'il avait dit à un grand écrivain sarde. Il s'appelait Giuseppe Dessi.
Dessi, ouais.
Giuseppe Dessi, qui disait, après avoir rencontré Maria Carta, encore une fois, je suis persuadé que les meilleurs hommes sardes, ils sont nos femmes.
Ouais.
Parce qu'elle avait une personnalité
très,
immense.
Très forte.
Immense.
Mais d'ailleurs, elle avait été élue conseillère municipale du Parti communiste italien à Rome.
À Rome.
Oui, oui. Avant de revenir à Siligo.
Oui. Elle a été aussi, disons, comment on peut dire, décorée par le président de la République.
Oui,
aussi.
Tout à fait. Tout à fait. Ça a été vraiment une très grande chanteuse qu'on a un peu connu en France, qu'on a sûrement un
mais
peu...
Mais même en France, il a, un peu, on peut dire. Mais elle a fait le tour, elle a chanté même dans le Palais des Papes, à l'Avignon.
Bien sûr.
À Paris, à l'Olympia.
Uh-huh.
Les journaux, ils ont parlé pendant des jours et des jours d'elle. Ils l'ont comparée à... Comme femme, ils ont dit, nous, en France, on a eu... Piaf.
Oui, voilà, c'était un peu pour la Sardaigne ce que
pour la Sardaigne,
Piaf
voilà.
a été à la France d'une certaine époque.
Et pour la Sardaigne, c'est Maria Carta.
Ouais, ouais. Alors, on va écouter une seconde chanson d'elle, Bogheriu. C'est une chanson d'amour. Le lys est en fleur, chaque fois que je vais cueillir une branche, le lys est en fleur. Je chante par jeu l'amour, je l'ai déjà. Je ne chante pas pour aimer. Dans les branches du figuier, les oiseaux chantent comme si c'était la fête. Dans les branches du figuier se cachent des passions secrètes. Monil souffre pour son antique abandon. Voilà, Bogheriu.
Sulle ceste in fico preso
sulle zeste in fico te, ogni volta chi Enzo, un'ora ta segare, un'ora ta segare, un'ora ta segare. Canto pro mi spassare, casa amore l'utenzo, non canto pro amare, sulle zeste in fico te, sulle zeste in fico te. Sarvore sapito, cirule tanto zoppe, per solde allegria, per solde allegria, per solde allegria. Segreta passi con me, su fissi sola mica, cosa abbandona antico, i sarvore sapito, i sarvore sapito, cirule tanto zone, cirule tanto zone, cirule tanto zone, cirule tanto per sonde allegria, per sonde allegria, per sonde allegria.
Voilà. Une deuxième chanson de Maria Carta. C'était encore un Bogueirio. Et puis on va en écouter une troisième. C'est un muto. Muto, c'est amore. Qui dit au-dessus du bénitier. Ils ont peint un ange avec de l'argent et de l'or au-dessus du bénitier. Quand tu veux, tu ouvres, puisque je t'ai confié les clés du cœur. Quelle belle fleur, elle ne se fane jamais, on l'arrose à une source. Quelle belle fleur. Les hommes sont ainsi faits, ils te demandent ton amour, tu leur donnes de l'amour, mais eux ne t'en donnent jamais. Muto se amore. Voilà, c'était Maria Carta. On pourrait écouter énormément de chansons d'elle, elles sont toutes très extrêmement intéressantes. Tout évidemment en dialecte sarde, en langue sarde. Et le sarde est une langue intéressante aussi parce qu'on n'a pas de traces du sarde avant l'occupation romaine. Les Romains sauf dans les noms de lieux, dans la toponymie. Mais par contre, c'est la langue d'Italie qui est probablement la plus proche du latin, qui a gardé le plus de traces du latin, parce que c'était une langue qu'ils avaient apprise, donc c'était un peu comme une langue scolaire pour eux. Et ça a donné le sarde d'aujourd'hui, enfin les dialectes, les langues sardes d'aujourd'hui, parce que y a trois groupes de langues. Il y a celle du nord de Sassari, il y a celle du sud de Cagliari, et puis entre les deux, il y a celle de Nuoro. Et ces trois groupes différents, tellement différents, qu'on publie en Italie des dictionnaires d'une langue dans l'autre et d'un dialecte en italien. Alors il y a énormément de productions musicales en Sardaigne, c'est une grande région pour la musique et la chanson, on y chante énormément. Et une seconde cantautrice sarde qui a un peu pris la suite de Maria Carta, c'est Elena Ledda. Alors elle est plus jeune, elle est née en 1959 et elle a commencé à chanter très jeune. À l'âge de 9 ans, elle fait sa première apparition officielle sur une petite scène d'un quartier de Cagliari. Et c'est seulement... Elle va chanter là, dans un groupe folk de Quartuccio, et jusqu'à 16 ans. Et puis à 16 ans, elle va reprendre ses études et elle va rentrer au conservatoire de Cagliari, où elle a une grande... enseignante, c'est Maria Casula, qu'on connaissait beaucoup dans la région, mais dans toute l'Italie. Et elle passe 6 ans au conservatoire de Cagliari, donc c'est la capitale de la Sardaigne, dans le sud. Et elle apprend aussi à jouer du hautbois. Elle commence à ce moment-là son activité de concert avec son frère Marcello, qui l'accompagnera toujours à la guitare. Et elle reprend des morceaux de la tradition sarde. Elle travaille dans une coopérative théâtrale, la coopérative Teatro Sardegna, et elle publie son premier disque en 1979 avec un groupe avec lequel elle entreprend un grand tour de concert très, très important, très, très suivi. Et puis elle va fonder un autre groupe de musique italienne et sarde et européenne. Et elle sort son second disque en 1984. Et puis, quand son groupe Suono Ficina se dissout, elle fonde le groupe qui s'appelle Sonos et dont on va écouter quelques pièces. D'abord, une première... qui s'intitule « Di la Meita » de ma vie, et qui dit « Est-ce qu'un amant ne devrait pas faire des excès devant ton visage majestueux ? Tu as imprimé dans son cœur les couleurs d'un lys blanc et d'une rose. Peut-être que, gracieuse, tu ne t'étonnes pas de cela, de toi-même, quand tu te regardes dans un miroir. » On admire la plus noble idée de façon juste de ta belle poitrine. Au monde, il n'y a rien de si beau et de si bien proportionné. Ah, combien je serais injuste si je t'aimais avec un moindre sentiment. Tu imposes tant de respect à tout le monde que tu enchantes, tu les enchantes tous, que tu leur plaises ou que tu les maltraites. De ma vie, les moments les plus doux sont ceux que je passe avec toi, ma belle.
Tan ansia la tua cara maestosa e non de un amante. Candido licio e di la rosa, tu poi ti ricolori in cara espressi, possicando di specchio graziosa, non fai marai. Si canto di specchio graziosa non fai maraia.
Vous avez remarqué combien c'est caractéristique de la chanson sarde. La chanteuse pratique des mélismes, des ornements très, de voix très très travaillés. Et c'est le fait, c'est très caractéristique de la chanson du Sud, mais en particulier de la Sardaigne, beaucoup plus que de celle du Nord. Alors, pour finir, écoutons une chanson dont on reparlera la fois d'après. C'est « Les sept espadas de dolore ». Les sept épées de douleur, c'est le chant de douleur de la Vierge devant la mort de son fils. Alors on en reparlera la prochaine fois, parce que le chant sarde peut être aussi bien un chant profane qu'un chant religieux, et les deux ont quelques ressemblances.
Se ti spara de dolore,
Voilà, c'était les lamentations de la Vierge face à son fils mort, et elle est traversée de cette épée de douleur. Alors, on reviendra sur ce chant la prochaine fois, parce que la chanson religieuse sarde est très importante aussi. Et puis, on parlera d'autres cantautori sardes, Franco Madau, Andrea Parodi, ouais. Et on écoutera encore une chanson, une berceuse de Elena Ledda, qui est un très beau chant. Et voilà, on a évoqué cette chanson de Sardaigne dans une première partie. Écoutez bien, et au mois de juin maintenant, avec un bon printemps.
Sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, dopo quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Sono solo canzonette.
Une émission sur la chanson italienne présentée par l'association Inis Italie Nord-Isère
par Jean Guichard et Alain Pongan.